Patricia Martin, votre invité à présent, Daniel Marcelli, il est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il est président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des professions associées, pour son dernier livre, Moi-je, point d'exclamation, de l'éducation à l'individualisme.
Et j'ajouterais que sa longue expérience donne à sa parole un poids particulier. Daniel Marcelli, bonjour.
Oui, bonjour Patricia.
Dans deux jours, les enfants vont retourner en classe. Deux problèmes et de taille se posent à eux, ainsi qu'aux enseignants évidemment. C'est la Covid et les contraintes que cela induit. Et puis, les attentats qui viennent d'avoir lieu, c'est un double traumatisme. Leur en parler, oui, forcément, mais comment ?
Et comme toujours avec les enfants, surtout quand ils sont jeunes, et d'autant plus qu'ils sont jeunes, car plus l'enfant est jeune, plus la dimension des émotions l'emporte sur la compréhension. Donc c'est d'expliquer le monde et d'être clair dans ses explications et de dire la vérité. Mmh. Alors pour le Covid, il se trouve qu'ils vont à l'école cette fois, que le confinement est quand même moins rigoureux pour eux et que leur vie sociale restera finalement peu changée par rapport à l'habitude. Il y aura le port du masque pour les petits à partir de la primaire et de 6 ans. Et cela, on pourra y revenir.
Oui.
Pour ce qui concerne les attentats, je crois qu'il faut effectivement peut-être préserver les enfants des images violentes, mais actuellement, les émissions et la télévision évitent ce genre de choses quand même un peu, et expliquer qu'il y a des gens qui sont méchants, des gens qui croient qu'ils peuvent dominer le monde et qui veulent que le monde fonctionne comme eux ont décidé de le faire et pas comme le monde fonctionne et que ces gens méchants, eh ben, ils font des choses méchantes.
Mais il n'y aura pas de moment pédagogique comme c'était prévu à l'origine et les rassurer, on a bien compris, hein, c'est ça qu'il faut faire avec les enfants. Ouais. Mais quand les enseignants eux-mêmes sont dans un état de tristesse et de sidération, c'est compliqué.
Alors, vous venez de dire quelque chose d'essentiel, c'est qu'effectivement, les explications à un enfant, quand l'adulte lui-même est dans un état émotionnel qui contredit les explications, par exemple, quelqu'un de très angoissé, quelqu'un de déprimé, l'enfant, il entend le message émotionnel et il entend moins le message, j'ai envie de dire, rationnel, oui. Et ce, d'autant plus qu'il est jeune. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les adultes eux-mêmes doivent être soutenus et accompagnés, et qu'il y a un travail, ce travail de médiation auprès des adultes est essentiel, parce que c'est en les soutenant et en les accompagnant que, par ricochet, eux-mêmes seront plus à l'aise pour pouvoir parler avec les enfants. Il faut eux-mêmes qu'ils puissent exprimer leurs émotions, et je dirais non pas s'en libérer, mais justement, c'est quand on peut se parler à soi-même et parler aux autres de ses propres émotions que celles-ci deviennent plus modulées, plus douces, plus acceptables. C'est lorsqu'on est obligé de les rentrer et de les enfouir comme si c'était quelque chose de pas bien, que ces émotions-là finissent par vous dominer. Donc ce travail-là est essentiel.
Oui, professeur Marcelli, vous parliez tout à l'heure donc du port du masque, obligatoire à partir, je crois, de 6 ans hein,
oui.
en classe. Il y a tout aussi toutes les questions de distanciation qui sont autant de contraintes et qui, je dirais, sont contraires à la nature de l'enfant. Alors, comment leur faire accepter et respecter ces règles-là? Et est-ce qu'un certain nombre d'interdits peuvent être traumatisants pour les petits ?
Bien que travaillant depuis fort longtemps dans le domaine, je ne sais pas au fond ce que c'est que ce qu'on appelle la nature de l'enfant.
Ouais.
J'ai fait exprès de rebondir.
Ouais, ouais,
oui. Parce que l'enfant est un être social et c'est en se socialisant qu'effectivement il est amené dans la culture, j'ai envie de dire. Alors effectivement, les gestes barrières, ces gestes-là, doivent être expliqués à l'enfant. Et le masque, c'est très intéressant parce que ça rejoint quasiment l'objet de mon livre. À quoi ça sert le masque ? Le masque, ça sert d'abord et avant tout à protéger les autres. Parce que c'est en évitant d'envoyer des gouttelettes, etc., qu'on projette sur les autres. Donc le masque, c'est plus quelque chose qui protège les autres que de fait de protéger soi-même. Les gestes qui protègent soi-même, c'est se laver les mains, c'est effectivement ne pas se toucher le visage. Et le geste de distanciation, on se protège réciproquement. Eh bien, je pense qu'il faut expliquer cela aux enfants. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'adultes qui savent que le masque, c'est d'abord et avant tout pour protéger les autres. Et de ce point de vue-là, ça rejoint tout à fait la question de l'individualisme et de l'individu.
Et du moi-je, et pour du reprendre le titre de votre livre.
Tout à fait. Moi, j'en ai rien à faire de ce masque, j'ai envie de me promener librement. C'est-à-dire que là, on rejoint ce que j'appellerais l'individualisme, qui est un peu comme tous ces mots en isme en français, fondamentalisme, rigorisme, impérialisme, ce sont des mots du dogmatisme, où effectivement le dogme, où la croyance passe avant toute autre chose. L'individualisme, c'est l'individu qui se croit au-dessus de tout, ou plus exactement qu'il n'y a rien au-dessus de lui, et qui considère que c'est lui-même qui décide de tout pour lui-même, sans souci pour les autres. Eh bien, le masque, c'est justement l'objet du rapport social et du fait que nous sommes des animaux sociaux, des êtres humains plongés dans la société et qu'on doit respecter, faire attention et considérer la présence des autres.
Mais le triomphe de l'individualisme et de cet individu donc qui est apparu peu à peu, ça a été une révolution. Et pour les parents aujourd'hui, est-ce que ça constitue un défi que d'éduquer des enfants, que de leur dire non, que d'exercer son autorité, alors qu'on sait aussi que l'autorité, c'est plutôt rassurant pour un enfant?
C'est derrière l'autorité, c'est d'avoir un cadre et des limites et d'être protégé dans un cadre. C'est ça qui est nécessaire et que on ne peut pas, entre guillemets, tout faire. Alors effectivement, l'individualisme et le triomphe de l'individu comme notion sociale, ça date pas d'hier. Les hommes, ça fait un certain temps. Les femmes, ça fait, je dirais, un gros siècle. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que même les enfants, je dirais presque dès leur naissance, sont élevés comme s'ils étaient des individus. C'est-à-dire des particules complètement indépendantes et complètement autonomes, quasiment dès la naissance. Bon, mettons les quelques premiers mois de côté. Il y a une caractéristique pour cela. C'est qu'effectivement, on a décrit, nous les premiers, les pédopsychiatres, les psychologues, on a décrit ce qu'on appelle les compétences du bébé et les compétences du nourrisson. Et ce jour-là, l'éducation a complètement changé. Jusque-là, l'éducation, c'était au fond d'apprendre à l'enfant les règles, d'apprendre à l'enfant à bien se tenir et à le savoir-vivre. Et à partir du moment où on a décrit les compétences des bébés, le travail des parents, j'ai envie de dire, ça a été de faire tout pour stimuler les compétences de l'enfant pour qu'il soit, selon le mot des parents, épanoui. Et moi, je résume ça sur ce sorte d'aphorisme. Jusqu'à présent, l'éducation, selon son étymologie, ex ducere, ça consiste à conduire l'enfant vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la société. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que l'éducation, ça consiste à conduire l'enfant vers lui-même, le conduire à lui-même, à ses compétences, en oubliant quand même que l'enfant est un être social et qu'il doit vivre en société.
Donc, et lui apprendre à vivre finalement en groupe et lui faire aussi prendre conscience qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'est pas seul au monde et que l'altérité, ça existe et que c'est même essentiel.
Alors l'altérité existe, c'est essentiel, et il y a une autre chose aussi qui est essentielle pour pouvoir vivre dans la société, c'est qu'il faut que son propre désir ne soit pas souverain et ne soit pas le guide, je dirais, impérialiste, dans une forme d'impérialisme du désir, qui le prenne par le bout du nez. Je pense qu'une des difficultés éducatives majeures des parents, c'est de faire en sorte que leur enfant arrive à tolérer la souffrance d'un désir non satisfait. Je me répète, tolérer la souffrance d'un désir non satisfait. Il ne s'agit pas d'interdire tous les désirs à un enfant, mais que de temps en temps, le petit enfant puisse être confronté à la souffrance d'un désir non satisfait, c'est pour son psychisme quelque chose d'absolument essentiel. Or, plus personne aujourd'hui ne parle de cela et ne présente ça. Ce que je viens de dire, c'est comme si c'était des mots d'une sorte d'insanité, des mots presque pas normaux.
Merci Daniel Marcelli. Donc ce livre, moi je écris avec des mots tout à fait normaux et une pensée tout à fait normale, de l'éducation à l'individualisme, c'est publié chez Albin Michel. Merci à vous.